La Chine a émis des commentaires ce matin en disant à M. Trudeau de cesser de tenir des propos irresponsables.
Hey, ça se détériore à vitesse grand V, les relations entre le Canada et la Chine depuis l'arrestation de Meng Wanzhou. C'est en train de prendre des proportions qui nous surprennent parce que c'est pas des comportements auxquels on est habitué généralement au niveau diplomatique. C'est rare qu'on décide qu'on va prendre en otage parce que ça semble bien être le cas. Je disais qu'il y a eu 13 Canadiens qui ont été arrêtés depuis que Mme Wanzhou a été effectivement arrêtée au Canada sur les ordres, en fait, des États-Unis.
À la demande des États-Unis.
Puis, en fait, elle est toujours à Vancouver. Elle a perdu son passeport, puis elle est immobilisée là. Mais 13 Canadiens qui ont été arrêtés, puis il y en a 5 qui sont encore détenus, dont 2 qui sont accusés d'avoir porté atteinte à la sécurité de l'État. Et ce matin, celui-là qui est accusé d'avoir fait... Alors là, l'image des bonnes... Et c'est une image assez forte. En tout cas, moi, je l'ai encore en mémoire, l'image que Pierre Elliott Trudeau avait conclu avec la Chine, une espèce de... avait une relation particulière avec la Chine, mm-hmm. puisque c'était un régime communiste et qu'il était le premier chef d'Occident à rendre une visite officielle à la Chine. Ça avait créé, comme établi un pont. Et Justin est allé, je pense, au début de son mandat, en Chine aussi, a été assez bien accueilli. Mais depuis lors, à cause de cet événement-là, il y a une détérioration, puis on se dit, mais ça va s'arrêter où, juste?
Mais il y a une détérioration qui n'est pas liée aux relations Chine-Canada. Il y a une détérioration qui est liée à la montée en puissance de la Chine, au fait que ça a toujours été une dictature, mais c'est de plus en plus une dictature. C'est un pays qui exerce son pouvoir. Maintenant, la Chine, il y a un article fascinant de The Economist, là, daté de mars dernier, que j'ai tweeté, je viens de l'envoyer sur mon compte Facebook, Twitter, vous le lirez, qui dépeint ce qui se passe en Chine présentement. C'est-à-dire qu'à une époque en Chine, les Chinois voulaient juste pas qu'on se mêle de leurs affaires, ils se mêlaient pas de ce qui se passait ailleurs. Et ce qu'on voit dans ce bras de fer entre le Canada et la Chine, parce que les Canadiens ont arrêté à Vancouver la dirigeante d'une compagnie chinoise à la demande des Américains en vertu de traités internationaux. Bref, la règle de droit, OK? Les Canadiens l'arrêtent et là, bon, elle est détenue, passe devant un juge, etc. Et on le sait, ici, nos tribunaux sont indépendants. Que fait la Chine en retenant en otage des citoyens canadiens, en les accusant comme ça, comme par magie, dans un pays où les tribunaux ne sont pas indépendants? Ce que les Chinois veulent, c'est se mêler de nos affaires. Ce qu'ils voudraient, c'est qu'on applique le même genre de pouvoir arbitraire sur nos tribunaux que ce qu'on peut voir en Chine. Et c'est là le clash qui dépasse les simples relations canado-chinoises. Le clash, c'est entre un grand pays, un énorme pays, qui est devenu un géant économique depuis 25 ans, et qui ne veut pas jouer selon les règles de la règle de droit, selon les règles des organisations de commerce mondial, etc. Donc, les gens qui disent « Ah, Justin Trudeau, si, Justin Trudeau, ça, il n'aurait pas dû faire ci, faire ça comme ça avec la Chine », m'excuse, mais toutes les démocraties sont confrontées à ça, de l'Allemagne aux États-Unis.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que ce serait juste le signe de ce qu'on a souvent décrit comme l'inévitable domination du monde jusqu'à un certain point.
Par la Chine.
À cause du nombre. Et on le voit très bien dans plusieurs aspects économiques. Moi, je suis fasciné de voir la présence de la Chine, par exemple, en Afrique, dans tous les pays où il y a des ressources naturelles, parce qu'on sait bien que cette immense population va avoir besoin d'à peu près toutes les ressources naturelles de la Terre pour pouvoir satisfaire à un niveau de vie qui soit acceptable.
Mais moi, je peux dire au Québec, ce que tu viens de décrire, là, combien d'entreprises chinoises ont investi ou ont voulu investir au Québec, et pour eux, dans leur esprit, on arrive avec notre main-d'œuvre. On n'a pas besoin de la vôtre.
Exact. Les mines, on va importer nos.
On va importer qui sont souvent des détenus, ça ne coûte pas cher, puis on va pouvoir les mettre dans des roulottes. Puis là, tu as beau dire aux investisseurs, tu iras expliquer à Rambo que ce n'est pas des syndiqués qui vont faire ça. Là. Vont avoir des... Mais ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que tu puisses pas faire ce que tu veux quand tu développes, par exemple, la Côte-Nord ou tu développes le secteur minier.
Mais Paul, ils ne comprennent pas parce que ça marche ailleurs. Tu sais, il y a des règles du commerce mondial, mais les Chinois, quand ils arrivent dans certains pays et qu'ils investissent, ce qu'ils disent, c'est « Regardez, on va investir ici, Il y a de l'argent qui va rentrer. Ou même, on va développer des routes chez vous. On va développer des infrastructures. Mais vous devez adhérer au système chinois de résolution de litiges. Et ça, c'est en marge des organisations de commerce internationales telles qu'on les connaît. C'est ça que je veux dire quand je dis que la Chine est maintenant en train de confronter certaines règles hors de son territoire. C'est là que ça dépasse les relations entre le Canada et la Chine. L'Allemagne s'est fait punir. Mercedes a été ciblée directement parce que les Chinois n'étaient pas contents avec Mercedes ou avec l'Allemagne. Mais ça dépasse les relations canado-chinoises.
D'ailleurs, l'arrestation de Meng Wanzhou, là, c'est lié à cette compagnie qu'on soupçonne
Huawei
de non seulement de vouloir envahir le marché, mais de servir de prétexte pour voler l'expertise et l'intelligence des autres compagnies. C'est assez fascinant parce que, d'un autre côté, je ne veux pas défendre le système chinois, mais c'est difficile d'imaginer qu'un tel pays, qu'une telle population... puisse évoluer aussi selon nos cadres à nous. C'est-à-dire, c'est compliqué à imaginer. Je te dis pas que le système chinois est idéal,
mais... Moi, j'ai de la misère avec ce...
Mais c'est un continent qu'on connaît mal.
Ben, regarde,
c'est une civilisation qu'on connaît mal.
L'Inde est un immense pays, population équivalente à celle de la Chine, puis c'est une démocratie. Une démocratie imparfaite, mais c'en est une. Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça, genre l'exception chinoise. Oui, mais tu peux pas gérer un grand pays comme ça... en vertu de nos normes démocratiques. Ils sont bien contents, par exemple, d'avoir les normes du marché libéral et qui est garanti par un certain ordre mondial, qui est garanti par des traités, qui est garanti par une certaine règle de droit ailleurs. Ça, ils sont bien contents là-dessus. Mais quand il s'agit de se comporter comme une dictature, ben, moi, j'y vois un avantage concurrentiel qui est totalement injustifié puis injustifiable. Le pari que l'Occident a fait avec la Chine il y a 25 ans, c'est, regarde, on va les admettre dans les institutions internationales de commerce. Ça va leur permettre de se développer. Ils vont développer, disons, peut-être pas un goût, mais ils vont développer une habitude pour ces normes-là qui sont basées sur la règle de droit. Et au final, cette libéralisation économique, ça va amener une libéralisation démocratique. Rappelez-vous comment on justifiait que les Jeux de 2008 soient donnés à Pékin? Ah, ça va favoriser une ouverture sur le monde. Ah, ça va leur montrer c'est quoi...
Soyons pas innocents.
Non, mais
le
Pierre,
libéralisme a aussi vu dans la Chine un marché extraordinaire.
En effet, mais le pari...
Les chantres du libéralisme accueillant et démocratique,
non.
Mon œil.
Le pari, il y a 25 ans, c'était ça. Le pari a été perdu. La Chine a gagné l'accès aux joies du marché, on va appeler ça comme ça, mais a rien donné en termes de libéralisation économique. Ça a empiré. Le président chinois, j'ai de la misère à le prononcer, je suis désolé, Xi, au moins au sommet de la pyramide du pouvoir chinois, tu avais un certain brassage de soupe. Tu avais un changement de dirigeant aux quelques années. Xi s'est attribué des pouvoirs qui sont ceux, disons, des républiques de bananes. Il est maintenant président à vie. Donc, on s'enfonce en dictature. L'ambassadeur que tu as interviewé tantôt, l'ancien ambassadeur Saint-Jacques le racontait à quel point maintenant ça va être difficile même de se promener en Chine, de rencontrer des dissidents. Tu sais, quand je dis que les Chinois ont accès à nos marchés, ont accès aux joies de la démocratie chez nous, les Chinois, ils peuvent espionner aux États-Unis parce que c'est une société libre, ils peuvent se promener partout. Des espions chinois qui travaillent pour les services occidentaux ou les occidentaux qui ont des espions là-bas, bonne chance avec le système de surveillance.
Non, mais Jean Lapierre, qui était ministre des Transports à un moment donné, m'avait dit après qu'il y avait une délégation chinoise qui était venue en visite à Toronto, Ottawa, Montréal pendant une semaine, puis Vancouver, je pense. Et il dit, on sait très bien, puis la GRC nous l'avait dit, que 60-65% de la délégation était composée de gens qui avaient une mission, c'est de faire de l'espionnage industriel.
Oui.
Tu sais, c'est comme, on le sait, ils savent qu'on le sait. Puis ils font pareil.
Moi, je pense que la conclusion, c'est que le péril jaune nous menace.
Voilà.
Mais de quoi on parlait hier? On parlait des relations entre le Canada et l'Arabie saoudite.
Oui.
Mais pour moi, Arabie saoudite-Chine, ça fait partie du même problème. Comment les démocraties vont maintenant interagir avec ces dictatures-là?
Merci. On fait une pause. 8h53.